Le journal Loïc Barrière. À l'occasion des 60 ans des accords d'Évian, Emmanuel Macron a plaidé pour un apaisement des mémoires autour de la guerre d'Algérie. Hier, Abdelmadjid Tebboune a estimé que le dossier mémoriel devrait être abordé d'une manière équitable. Sur les 60 ans des accords d'Évian, entretien avec le journaliste et écrivain algérien Adlène Mehdi. Il y a 10 ans, le terroriste Mohamed Merah assassinait 4 personnes, dont 3 enfants, devant une école juive de Toulouse. L'Espagne change de position sur le Sahara occidental et appuie l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc. Enfin, les Émirats arabes unis, premier pays arabe à recevoir la visite de Bachar el-Assad depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Le président Macron a prononcé un discours sur la mémoire de la guerre d'Algérie à l'occasion du 60e anniversaire des accords d'Évian. Un discours prononcé devant 200 personnes liées à cette histoire. Harkis, rapatriés, anciens appelés, familles d'indépendantistes. Emmanuel Macron a confirmé la construction d'un musée prochainement, un musée de l'histoire de France et de l'Algérie. Ce sera à Montpellier. Après avoir rappelé tous les gestes qu'il a accompli sur ce sujet depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron a plaidé pour un apaisement des mémoires sur les deux rives de la Méditerranée. On l'écoute.
D'abord, je pense que le jour viendra où l'Algérie fera ce chemin. Et je pense qu'il est plus difficile pour le peuple algérien et les dirigeants algériens encore que pour nous. Mais il viendra. Et donc, j'assume cette main tendue et je pense qu'elle sera suivie de gestes, d'actes, progressivement, sachant les voir et les saisir. Mais surtout, je pense que tout ce dont je viens de vous parler n'a rien à voir, au fond, avec l'Algérie d'aujourd'hui, simplement, parce que c'est nous. C'est notre histoire. Parce que je viens simplement de parler de nos enfants. Ce sont nos enfants qui furent appelés pour se battre. Ce sont nos enfants qui furent rapatriés d'une terre où ils étaient nés, qui était la leur. Ce sont nos enfants, qui se sont parfois battus pour l'indépendance et qui sont ensuite arrivés en France, parfois quelques décennies plus tard, pour fuir l'obscurantisme islamiste quand ils s'abattaient sur l'Algérie et venir trouver ici la protection. Ce sont nos enfants qui se sont retrouvés dans la France, appelés harkis, mais devenus français. Ce sont nos enfants qui sont ensuite devenus leurs enfants. Ce sont nos enfants qui, venant d'Algérie ou nés en France de parents algériens, vivent ici, sur notre sol, dans notre nation. Et laisser ces histoires ne pas être dites, reconnues, laisser dos à dos tant de parcours, c'est rendre impossible à la nation de vivre en paix. Et donc ce parcours de reconnaissance que nous allons poursuivre, parce qu'il est maintenant inarrêtable, est simplement la condition pour nous tous de ne rien oublier, de ne rien nier du caractère irréductible des souffrances, des douleurs de ce qui a été vécu, mais d'assumer qu'elles sont toutes françaises. Toutes françaises. Parce que la guerre d'Algérie, ces non-dits, était devenue la matrice, et le sont encore, quand j'écoute notre actualité, la matrice des ressentiments.
Emmanuel Macron en début d'après-midi à l'Élysée. À l'occasion du 60e anniversaire des accords d'Évian, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a estimé hier que le dossier mémoriel devrait être abordé d'une manière équitable. Selon lui, les crimes de la colonisation française ne sauraient être frappés de prescription. Sur ces accords d'Évian, entretien avec le journaliste et écrivain Adlène Mehdi.
On peut parler de cet anniversaire de deux manières en Algérie. D'abord, rappeler que le 19 mars en Algérie s'appelle officiellement la journée de la victoire. C'est pour souligner un peu que c'est le FLN qui sort gagnant de la guerre des 7 ans contre la France coloniale. Et de l'autre côté, on célèbre pas vraiment ces accords parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images en Algérie sur ça. On parle pas beaucoup de ça, en fait, de ces négociations. On est beaucoup plus dans un récit guerrier que le récit des négociations. Et même dans les manuels scolaires, même moi à l'école, je me rappelle pas qu'on ait beaucoup étudié cette étape très importante de l'indépendance algérienne. On a des drapeaux partout à Alger, mais il n'y a pas assez marquant pour célébrer le 60e des accords d'Évian.
Vous l'avez souligné, c'est une étape très importante vers l'indépendance de l'Algérie. Comment vous expliquez cette faible communication?
Eh bien, tout simplement, c'est parce que l'histoire reste toujours prisonnière du récit officiel qui est lui-même une sorte de justification de l'État et du pouvoir qui s'est installé après 1962. On a comme l'impression que c'est beaucoup moins glorieux de parler de négociations faites entre deux entités politiques qui sont le gouvernement provisoire de la Révolution algérienne et les envoyés du gouvernement de De Gaulle tout au long de l'année 60-61 et début 62. C'est moins glorieux que de dire que la victoire a été stricto sensu militaire et pour rester un peu dans le grand récit guerrier de la guerre d'indépendance. Cela ne m'étonne pas parce qu'en même temps, on a aussi effacé tout ce qui était politique dans la lutte algérienne contre la colonisation, parce qu'il fallait garder que la gloire de l'armée et tout ce qui est militaire quitte la grande légitimité austérique et historique des pouvoirs depuis 62.
Et est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales dispositions des accords d'Évian?
Eh bien déjà, la toute première, la plus importante, c'était d'arriver à un cessez-le-feu dans un pays, dans une situation où la situation pour les populations algériennes, notamment non urbaines, était exsangue. La première décision importante, c'était le cessez-le-feu du 19 mars à midi. Ensuite, il y a la chose la plus importante aussi, c'est la reconnaissance de l'intégrité d'un État algérien souverain, de l'intégrité totale de ses habitants et aussi de l'intégrité de son territoire. Parce que je rappelle que la France de De Gaulle voulait garder le Sahara algérien qui était un terrain d'expérimentation des nouvelles armes nucléaires et aussi, de par ses richesses, hydrocarbures. D'autres parties de l'accord concernaient surtout les Européens d'Algérie qui devaient avoir le choix entre partir ou rester ou prendre la nationalité algérienne. Il y a eu d'autres accords aussi sur leurs biens. Voilà, donc il y avait toute une série de détails pour recoudre et découdre cette sortie de guerre qui était très complexe dans un contexte de fin de guerre et en même temps de l'explosion du terrorisme de l'OAS à partir de 61. Donc c'était un accord très compliqué à trouver entre les deux délégations. C'est des mois et des mois de négociations publiques et secrètes. Mais c'était un bon deal, entre guillemets, entre l'ex-puissance coloniale et le gouvernement provisoire de la jeune République algérienne.
Et vous soulignez que le 5 juillet sera nettement plus célébré en Algérie, cette fête de l'indépendance.
Je sais de sources officielles qu'un programme a été tracé entre différents ministères, ministère de la Défense, ministère des anciens combattants, le Moudjahidine, ministère de la Culture, la Communication, etc. Mais pour le moment, on n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer. Mais je pense que vu les publications sur Facebook, vu comment les familles, il y a des survivants qui ont vécu le 5 juillet, donc il y a des témoins encore vivants dans les familles, je pense que au-delà de la commémoration officielle, je pense que la ferveur populaire sera encore là pour faire vivre le 60e anniversaire du 5 juillet, oui.
Et comment le travail mémoriel du chef de l'État français est-il perçu en Algérie, les différents gestes qui ont été faits au cours de ce quinquennat et quels sont les gestes les plus marquants pour l'Algérie?
C'est toujours compliqué de mêler politique et histoire, et surtout politique et mémoire, d'autant plus que tout reste à écrire aussi, hein, beaucoup de choses restent à écrire sur cette histoire compliquée entre la France et l'Algérie. Pour revenir sur les gestes du président Macron et sa politique des actes symboliques, c'est perçu doublement, c'est-à-dire que les Algériens, qu'ils soient officiels ou dans la société, prennent note, pour dire les choses clairement, surveille de très 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 ce qui se passe, tout en prétendant publiquement que c'est des affaires franco-françaises, que c'est à la France d'abord de régler ses problèmes de déni historique et que tant qu'il n'y a pas eu un déni général assumé de toute la période coloniale, il n'y aurait pas de... Tous ces gestes-là seront bien insuffisants devant la demande de reconnaissance, non pas de repentance, qu'exigent les Algériens, que ce soit les officiels ou la société civile en général.
Un travail sur les questions mémorielles a été effectué par l'historien Benjamin Stora. Ce travail qui devait également être mené par le responsable des archives en Algérie, qu'est-ce qui est sorti de cette mission?
Absolument rien, parce que le binôme de M. Stora ici, qui est le conseiller mémoire du président algérien, a clairement énoncé qu'il n'était pas du tout concerné par les chantiers ouverts par Benjamin Stora. Donc on est dans une situation du wait and see depuis plus d'un an concernant les démarches de M. Stora et de son rapport. Donc voilà, l'attitude algérienne pour le moment elle est ainsi.
Le journaliste et écrivain Adlène Mehdi, il répondait à François-Xavier de Calonne. Il y a 10 ans, le 19 mars 2012, un terroriste islamiste, Mohamed Merah, assassinait Jonathan Sandler, 30 ans, ses deux jeunes enfants, Gabriel, 3 ans, et Harry, 6 ans, ainsi que la petite Myriam Monsonego, 8 ans. Attentat commis devant l'école juive Ozar Hatorah de Toulouse. Le président Macron assistera ce dimanche à une cérémonie pour marquer le 10e anniversaire aux côtés des anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais aussi du président israélien Isaac Herzog. La police israélienne a ouvert le feu sur un Palestinien qui avait poignardé un passant à Jérusalem. La police dit l'avoir neutralisé. Le Palestinien, âgé d'une vingtaine d'années, a été évacué dans un état grave. L'Espagne a modifié sa position sur le Sahara occidental. Le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Álvarez, affirme que son pays soutient désormais l'initiative d'autonomie présentée en 2007 par le Maroc. Il s'agit selon lui de la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend. Une prise de position qui met fin à un an de brouille diplomatique entre Rabat et Madrid. Bachar el-Assad s'est rendu hier aux Émirats Arabes Unis. Il s'agit de sa première visite dans un pays arabe depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Le président syrien a été reçu par le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, pour discuter des relations fraternelles entre les deux pays, selon l'agence de presse émirati. Le ministère russe de la Défense affirme avoir utilisé des missiles hypersoniques pour détruire un entrepôt souterrain d'armement dans l'ouest de l'Ukraine. L'armée russe qui dit aussi avoir réussi à pénétrer dans la ville de Mariupol. Pour sa part, Vladimir Poutine a prononcé hier un discours dans un stade de Moscou plein à craquer. Un discours où il a célébré les 8 ans de l'annexion de la Crimée. En France, de nombreuses réactions après les propositions d'Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Candidat à sa réélection, le chef de l'État a confirmé sa volonté de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, soit 3 ans de plus qu'aujourd'hui. Il souhaite aussi conditionner le versement du RSA à 15 ou 20 heures d'activité par semaine. Réaction au micro de Radio Orient d'Anne Hidalgo, candidate socialiste à l'élection présidentielle.
C'est un programme de droite et de droite. Je pense que beaucoup de nos compatriotes en 2017 pouvaient se poser la question, pouvaient très sincèrement d'ailleurs se dire peut-être qu'il y a quelque chose dans le « en même temps » que nous proposait à l'époque Emmanuel Macron. En fait, le « en même temps », c'est des retraites à 65 ans qui font que beaucoup de nos concitoyens n'y accéderont pas parce que leur espérance de vie, je pense à toutes celles et ceux qui ont des métiers pénibles, ne leur permettra pas d'y accéder à ce droit au repos, ce droit essentiel qui est un des grands acquis de notre protection sociale. C'est en même temps continuer à faire en sorte que, par exemple, sur le RSA, l'invention de quoi ? Du travail payé en dessous du SMIC, parce que dire qu'il faudra mettre en place des formes de travail pour justifier d'une indemnisation, d'une allocation pour les plus fragiles, qui d'ailleurs fonctionne bien. Vous savez, hein, moi, là, pour le coup, en tant que maire de Paris, je travaille, je mets en place toute l'insertion liée au RSA, et ça marche. On a des très, très belles réussites en cela, mais ce qu'il a fait, c'est donc en même temps faire payer toujours aux plus fragiles, aux catégories les plus modestes, le coût de toutes les crises, en même temps supprimer ce grand acquis qui nous vient de Michel Rocard, qui est le RSA, qui s'appelait autrefois le RMI, en même temps démanteler les grands services publics, le service public de l'éducation, le service public de l'hôpital, en même temps mettre un coup à la décentralisation dans notre pays, parce que il veut encore priver plus les collectivités territoriales qui portent les services publics essentiels dans le pays de proximité, les empêcher de le faire puisqu'il n'y aura plus du tout de moyens pour les collectivités locales. En même temps, des cadeaux aux entreprises, parce que justement la suppression, par exemple, de cette contribution à la valeur ajoutée, qui est justement cet impôt qui permet aux collectivités de pouvoir fonctionner, c'est 7,5 milliards de cadeaux sans aucune contrepartie. Et donc c'est en même temps de droite et de droite. Moi, je crois que nos concitoyens maintenant ont très clairement le choix entre les mains. S'ils votent pour Emmanuel Macron le 10 avril prochain, eh bien ils vont se retrouver dans la rue sûrement pour contester la réforme des retraites, mais la réforme des retraites, elle passera avant l'été, et donc la meilleure façon d'empêcher ce type de destruction de notre édifice de protection sociale hérité du Conseil national de la résistance, c'est de ne pas mettre un bulletin Macron dans l'urne, mettre un bulletin Hidalgo, parce que voilà, moi je suis celle qui porte à gauche à la fois cette idée essentielle qui est que on ne peut pas se projeter dans notre pays avec des inégalités aussi flagrantes, et qu'il faut des services publics forts, de l'éducation, de la santé, qu'il faut revaloriser les salaires. Pas un mot sur les salaires. J'ai qualifié ce projet de grande violence sociale. Je préfère qu'on arrête cette violence sociale avant qu'elle ne s'exerce dans la rue.
Anne Hidalgo, candidate socialiste à l'élection présidentielle, au micro de François-Xavier de Calonne. Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, sera l'invité de rencontre ce samedi à 20h. Il publie « N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République » aux éditions Kéro, rediffusion dimanche à 21h. Et puis l'invité de la bibliothèque de Radio-Orient à 23h ce soir sera Alice Kaplan, autrice de « Maison Atlas », publié aux éditions Le Bruit du Monde et aux éditions Barzac. Rediffusion de cette émission dimanche 20 mars à 19h. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio-Orient.